Et maintenant, sur les ondes de Radio Albitzes, retrouvez votre créneau conférence.
Radio Albitzes, partenaire du salon Éco-Énergie de Carmaux, qui s'est tenu le 6 et 7 octobre 2018 à Carmaux. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter l'enregistrement de la table ronde de l'Adil du Tarn consacrée au financement pour les travaux de rénovation. N'hésitez pas à consulter notre site le www.radioalbitzes.com pour retrouver les autres enregistrements des tables rondes et les interviews réalisées au salon Éco-Énergie de Carmaux édition 2018.
Marjorie Medjeber, juriste à l'ADIL du Tarn. Donc, l'ADIL est une association d'information sur le logement. Nous sommes là pour donner des conseils juridiques, fiscaux et financiers en matière de logement. Les conseils sont gratuits, neutres et objectifs. Donc aujourd'hui, nous vous avons invité à cette conférence pour vous parler des aides à la rénovation énergétique dans le cadre soit du fait d'être propriétaire occupant, soit d'être propriétaire bailleur ou même locataire pour adapter son logement, que ce soit pour de la rénovation énergétique ou pour aussi de l'adaptation à une perte d'autonomie ou à un handicap. Donc, dans ce cadre de rénovation énergétique, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif FER. Donc, il signifie faciliter, accompagner pour tout ce qui est l'information à la rénovation énergétique. Donc, dans ce cadre-là, nous avons 400 espaces conseils en France pour conseiller les particuliers ou les professionnels en ayant besoin sur la rénovation énergétique, les différentes aides qui sont à disposition. Donc, c'est une réelle volonté d'améliorer le logement et surtout d'améliorer la performance énergétique des logements, ce qui fait partie des objectifs des pouvoirs publics. Et qui va permettre donc aux personnes d'améliorer leur logement. Donc, dans ce cadre-là, deux portes d'entrée essentielles pour les aides à la rénovation énergétique. Alors, on nous appelait avant les PRIS, les points rénovation info-service. Donc, d'abord l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc, comme vous voyez, nous donnons une information, comme je vous le disais, gratuite, neutre et objective en matière de logement. Nous n'avons pas de fonction commerciale, ni de fonction de négociation. Nous avons différents thèmes dans notre panel d'informations. Donc, aujourd'hui, je présente l'amélioration de l'habitat, mais aussi tout ce qui est location, accession à la propriété. On a les rapports locatifs, le voisinage, la copropriété, l'urbanisme. Tout ce qui est lié au logement fait partie de notre champ de compétences en termes de conseils. Par contre, nous ne faisons pas de représentation. Nous ne sommes pas une association de défense de consommateurs qui est là pour représenter les parties en suivant dans leur procédure. Les conseils sont donnés par téléphone quand cela est possible. Quand nous avons besoin d'informations complémentaires ou de consulter de la documentation, nous privilégions les conseils par rendez-vous. On renseigne aussi par mail et par courrier sur notre siège à Albi, mais aussi sur des permanences sur tout le département. Nous venons en permanence à Carmaux une fois par mois, mais aussi à Castres, à Labor-Saint-Sulpice, à Groyer, à Gaillac et à Mazamé. Et la deuxième porte d'entrée pour la rénovation énergétique, c'est l'espace Info Énergie du Tarn, qui est un service qui a été créé en 2002 à l'initiative du département, avec plusieurs cofinancements, notamment avec l'ADEME et la région. Donc, l'espace Info Énergie du Tarn donne également des conseils neutres, gratuits et détachés de tout intérêt commercial, où les particuliers sont conseillés, comme pour la DIL, par téléphone, mail et courrier, sur des rendez-vous ou lors de permanence. L'espace Info Énergie va traiter tout ce qui est question, on va dire, technique, concernant l'isolation, la ventilation, les chauffe-eau, les économies d'énergie, le confort dans le logement et également les aides financières. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on vous a mentionné quelques données qui ont été relevées. Donc, il y a 7 millions de logements mal isolés en France, 3,8 millions de ménages qui se trouvent en situation de précarité énergétique et 14 ménages qui ont froid dans leur logement en hiver, 14% des ménages. Donc, les objectifs essentiels, c'est baisser la consommation énergétique des bâtiments et rénover sur 5 ans la moitié des 1,5 million de passoires thermiques habitées par des ménages avec des faibles revenus. Donc la passoire thermique, c'est le logement qui est très mal isolé et dont toute l'énergie utilisée pour le chauffage va partir à l'extérieur. Là aussi, quelques données qui ont été réalisées dans le cadre du secteur du Carmozin-Ségala par Solia, qui est l'opérateur du secteur au niveau de l'ANA. Donc de 2012 à 2015, on voit qu'il y a eu une forte évolution des dépenses moyennes en énergie par les ménages. Alors, ça a tendance à baisser un petit peu parce qu'on arrive à améliorer cette performance énergétique. Mais on a encore sur le secteur 5% des propriétaires qui souffrent du froid contre 20% des locataires. Là aussi, l'amélioration du logement locatif fait partie des enjeux, des réformes et des différents dispositifs qui sont mis en place. Donc, dans un premier temps, j'ai choisi de vous parler du diagnostic de performance énergétique, DPE, qu'on entend, qui est un diagnostic qui va permettre en fait de connaître l'état de la performance énergétique de son logement, de connaître également le niveau de consommation par le classement sous forme de deux étiquettes, une étiquette énergie qui va de A à G, A étant le mieux classé, G étant la passoire thermique dont on parlait tout à l'heure, le logement énergivore. Et pour les émissions de gaz à effet de serre également, un classement de A à G pour connaître l'état du logement par rapport à ça. Donc ce diagnostic de performance énergétique, il est obligatoire dans le cadre de la vente de logements, dans le cadre de la location. Bon, après il y a deux autres cas pour la construction et pour les établissements qui reçoivent du public, mais cela on ne va pas les développer. Donc il a un rôle en fait d'inciter à réaliser des travaux, de prendre conscience que son logement n'est pas performant au niveau énergétique et qu'il est nécessaire d'y appliquer des travaux pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir améliorer sa consommation et la diminuer. Donc dans le secteur de la vente, il est annexé au compromis pour que l'acheteur achète en connaissance de cause et puisse connaître l'état de son logement avant d'en prendre possession. Il est également obligatoire dans les locations, il est annexé au contrat de location pour que le locataire puisse là aussi savoir quel type de logement il va louer, est-ce qu'il est plus ou moins bien isolé, est-ce qu'il va plus ou moins être fort en termes de consommation énergétique. Et enfin, ce DPE est obligatoire au niveau des annonces immobilières, puisque vous avez peut-être remarqué que dorénavant, dans les annonces immobilières figure l'étiquette énergie du DPE. Donc c'est depuis le 1er janvier 2011, c'est une obligation d'indiquer le classement du logement au regard de la performance énergétique qui va figurer dans les annonces de vente ou dans les annonces de location. Donc sur la sensibilisation aux travaux, on vous a montré ce petit schéma qui explique en fait quels sont les travaux prioritaires à réaliser pour faire des économies d'énergie. Donc on voit, on a des très fortes déperditions par le toit, par les conduits au niveau de l'air renouvelé et des fuites, par les murs, par les planchers, les ponts thermiques et les fenêtres. Mais on voit que vraiment prioritairement, ce qui va améliorer la performance énergétique du logement, c'est l'isolation au niveau des toitures, des combles, au niveau des murs. Viennent ensuite les fenêtres, les planchers et les ponts thermiques. Je vous parle de ces déperditions et de ce gain énergétique car il va conditionner notamment l'octroi de certaines aides. Ça va conditionner l'octroi de certaines aides. En fait, pour avoir droit, notamment, on verra tout à l'heure aux aides de l'ANA et aux aides de la région, il faut réaliser un gain énergétique et du coup, il faut choisir des travaux qui vont permettre d'atteindre le plus tôt ce gain énergétique. Donc, on va développer les différents dispositifs qui existent en matière de rénovation énergétique. Donc, tout ce qui est aide financière à l'amélioration de l'habitat, des aides de l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro. Alors, ce n'est pas une répétition, hein, c'est deux prêts différents. Les prêts des organismes sociaux, l'éco-chèque région, les aides locales et les certificats d'économie d'énergie. On va aussi voir l'aspect fiscal, puisque là, ces aides-là sont des aides financières. Il existe aussi des aides fiscales à la rénovation énergétique par le biais du crédit d'impôt et pour les bailleurs, des dispositifs d'investissement locatif qui permettent de déduire des revenus fonciers une certaine déduction forfaitaire. Des précautions également à prendre avec les mentions à faire figurer dans les devis. Donc ça, ce sera pour la fin. Donc pour mobiliser les aides financières, on va le voir, il y a plusieurs conditions à remplir, que ce soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Donc des plafonds de ressources, notamment pour les aides de l'ANA, les aides de la région et les aides des caisses de retraite. Alors quand on vient me voir et qu'on me dit « moi, de toute façon, ça passera pas parce que j'ai des ressources trop élevées », non, il existe toujours des dispositifs où il n'y a pas forcément besoin de respecter des plafonds de ressources, comme l'éco-prêt à taux zéro notamment, et le crédit d'impôt. On va parler aussi des cumuls qui peuvent se faire entre les différentes aides. Est-ce que je peux ou pas cumuler des aides? Si oui, sous quelles conditions? Et on verra également les conditions qui sont liées au logement. Donc pour ce qui est des propriétaires occupants, il faut que le logement constitue la résidence principale. Et pour les propriétaires bailleurs qui louent les logements, il faut que ce soit la résidence principale des locataires. Et notamment, il y a des conditions d'ancienneté. Logement qui date d'avant 90 pour les copréas taux zéro et logement de plus de 15 ans pour les aides de l'ANA. Donc sur le secteur du Carmozin, ces gars-là, concernant les aides de l'ANA, on a un opérateur qui est dédié au secteur qui est Solia Tarn, donc qui est situé sur Albi. Donc nous avons mis les coordonnées dans le PowerPoint. Il faut bien se renseigner avant de commencer les travaux, puisque certaines aides sont aussi conditionnées par ce point-là. Il ne faut pas généralement avoir commencé les travaux pour pouvoir demander les différentes aides et monter les différents dossiers. Et prévoir son financement, son plan de financement le plus tôt possible, de manière à éviter des mauvaises surprises au niveau du montage et de la suite des travaux. Nous allons donc d'abord parler des aides de l'ANA. Donc, concernant la rénovation énergétique, les aides de l'ANA ont été divisées en deux nouvelles formules, Habiter mieux sérénité, Habiter mieux agilité. Bon, essentiellement, on va d'abord parler des aides de l'ANA pour les propriétaires occupants. Donc, pour avoir droit à des aides de l'ANA en tant que propriétaire occupant, il faut d'abord occuper le logement à titre de résidence principale. À titre de résidence principale, ça veut dire que j'occupe mon logement au moins 8 mois par an. Ensuite, mon logement doit avoir plus de 15 ans. C'est un logement ancien que je rénove. Les aides sont réservées à la rénovation des logements. Donc au niveau de l'ANA, on ne part pas sur des logements neufs, on part sur des logements qui ont au moins plus de 15 ans. Il ne faut pas avoir eu d'aide publique durant les 5 dernières années. Donc essentiellement, on entend là le prêt à taux zéro. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de prêt à taux zéro qui remonte à moins de 5 ans, puisque dans ce cas-là, on a un cumul d'aide publique qui n'est pas possible. Sauf quand on est sur un secteur d'OPA, OPH, ce qui signifie opération programmée d'amélioration de l'habitat. Dans ces secteurs-là, où les communes ou communautés de communes se sont investies dans le cadre de l'amélioration de l'habitat et ont dédié un opérateur, ce qui est le cas sur le Carmozin-Ségala, Solia dont je vous parlais tout à l'heure, là, on peut cumuler et l'aide de l'ANA et le prêt à taux zéro sur l'acquisition du logement. Je vous parlerai un petit peu du prêt à taux zéro tout à l'heure. Donc, au niveau de l'ANA, on l'a vu, pour avoir droit à l'aide de l'ANA dans le cadre du programme Habiter mieux sérénité, je dois avoir un gain énergétique de 25%. D'où l'importance de réaliser des travaux qui vont permettre d'arriver à ce gain pour pouvoir être éligible à ce dispositif. Donc, ce gain énergétique, en fait, il va être estimé par un diagnostiqueur qui va venir sur place avant travaux pour déterminer, en fonction de l'état du bâtiment et des travaux que vous allez engager, quel sera le gain énergétique que vous allez obtenir. Et si ce gain est de 25% ou plus, à ce moment-là, l'octroi de l'aide de l'ANA est possible. Donc, sur les aides de l'ANA, vous avez là les plafonds de ressources qui varient en fonction du nombre d'occupants du logement. Nombre de personnes qui occupent à titre de résidence principale. Tout à l'heure, on me disait, oui, mais je vis avec quelqu'un, mais c'est moi qui vais acheter le logement. On prendra quand même en compte le revenu de toutes les personnes qui sont amenées à avoir la résidence principale dans le logement. Donc, il faut compter tous ces revenus. On regarde le dernier avis d'imposition reçu, puisqu'on prend toujours le revenu fiscal de référence. Actuellement, on est en 2018, celui de 2017. Donc, deux types de plafonds, les ressources très modestes et les ressources modestes. Ces plafonds de ressources vont en fait permettre de déterminer à quelle subvention vous pouvez prétendre. La subvention est bien entendu majorée pour les propriétaires très modestes. Donc on vous a mis un équivalent net mensuel pour vous donner une idée à peu près du revenu que ça représente pour une personne seule, pour un ménage ou un couple avec enfant. Donc on vous a mis aussi un exemple au titre des subventions accordées, puisque si on est en ressources modestes, la subvention de l'ANA va être de 35% du montant des travaux sur un plafond de 20 000 euros de travaux. Pour les propriétaires très modestes, la subvention va être de 50% du montant des travaux sur ce même plafond de 20 000 euros de travaux hors taxes. Sachant qu'à cette subvention, on ajoute, grâce au programme Habiter mieux, 10% supplémentaires au titre de l'aide solidarité écologique. Cette majoration inclut ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. c'est-à-dire les aides des fournisseurs concernant la rénovation énergétique, qui ne peuvent donc être cumulées avec les aides de l'ANAH puisqu'elles sont incluses dans la majoration de 10% de la subvention. Donc sur 20 000 euros, si je suis propriétaire très modeste et que je réalise un gain énergétique de 25%, je vais avoir une subvention de 12 000 euros maximum au niveau de l'ANAH. Donc vous voyez, sur le schéma, sur 17 000 euros de travaux par exemple, 8 500 euros d'aide aux travaux, 1 700 euros de prime habiter mieux, 10% supplémentaire, ça nous fait 10 200 euros d'aide totale sur 17 000 euros, soit 60% d'aide non remboursable obtenue grâce aux subventions de l'ANAH. Donc c'est quand même pas négligeable en termes de rénovation énergétique que d'obtenir ce type d'aide. Donc sur les aides de l'ANAH, on a un montage du dossier et le diagnostic qui est réalisé pour le public éligible par l'opérateur du secteur, donc l'OPA du Carmo Saint-Ségala, qui est Solia. Alors, pour pouvoir monter son dossier, il faut préalablement s'inscrire sur la plateforme monprojet.ana.gouv.fr, qui est un service en ligne de demande d'aide financière. On va vous demander de saisir vos numéros fiscaux, vos revenus fiscaux de référence, de manière à pouvoir être contacté par l'opérateur de votre secteur directement pour établir le diagnostic dont je vous parlais pour le gain énergétique et pour pouvoir procéder au montage du dossier. Il est inclus et financé à titre des subventions. Donc c'est inclus en fait dans la subvention.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès 95.4, 104.2 et www.radioalbigès.com. Vous écoutez l'émission Conférence avec aujourd'hui l'enregistrement de la table ronde de l'Adil du Tarn consacrée au financement pour les travaux de rénovation.
Donc là, on est sur le premier type de dossier avec l'aide Habiter Mieux Sérénité et on a également des subventions de l'ANAH qui peuvent être accordées avec l'aide Habiter Mieux Agilité. Si je réalise des travaux de rénovation énergétique et que je n'obtiens pas le gain de 25%, par exemple si je n'ai qu'un chauffage à changer ou que mes combles à isoler, je peux quand même obtenir une subvention au niveau de l'ANAH, qui là n'est plus conditionnée par l'obtention de ce gain énergétique, qui est conditionnée par la réalisation d'un parmi trois travaux de rénovation énergétique, qui sont l'isolation des combles, l'isolation des murs ou le changement du chauffage. Si je réalise un de ces trois travaux par un artisan labellisé RGE et que je suis éligible au niveau de l'ANAH au titre des plafonds de ressources, des conditions d'ancienneté du logement, de non-obtention du prêt à taux zéro, etc., je peux avoir une subvention qui varie de 35 à 50% du montant des travaux. 35% si on est sur des plafonds de ressources modestes, 50% si on est sur des ressources très modestes. Tout à l'heure, j'avais un plafond de travaux de 20 000 euros. Là, sur ces subventions, le plafond, il est de 10 000 euros pour les propriétaires très modestes et de 7 000 euros pour les propriétaires modestes. Donc, par exemple, si je veux changer une chaudière pour 4 000 euros, je peux obtenir 2 000 euros de subvention de l'ANAH si je suis en ressources très modestes et 1 400 euros, donc 35% du montant des travaux, si je suis en ressources modestes. Alors, je vous ai mis en suivant dans le PowerPoint la carte des acteurs locaux de l'amélioration de l'habitat, avec les différentes opérations programmées d'amélioration d'habitat qui couvrent le secteur, sachant que là où il n'y a pas d'OPA dans le Tarn, il y a un programme d'intérêt général qui est couvert également par l'opérateur Solia. Est-ce que pour l'instant, sur les aides de l'ANAH, c'est clair ou est-ce que vous avez des questions à poser sur ces aides-là?
Vous disiez que dans les dispositifs, là, il fallait que le prêt à taux zéro, enfin, on ne pouvait pas cumuler. À partir de la date où on l'a souscrit ou à partir de la date où on a fini de le payer?
Alors en fait, on est à la date de souscription de l'offre de prêt. Il faut que la date de l'offre de prêt soit supérieure à 5 ans. Donc, Habiter Mieux Agilité, on l'a vu. La carte dont je vous parlais avec les différents secteurs qui sont couverts par des opérations programmées d'amélioration d'habitat. Et le secteur en gris qui correspond au programme d'intérêt général qui est un programme départemental couvert par l'opérateur Solia. Donc, hormis les aides de l'ANAH à la rénovation énergétique, je peux aussi obtenir un écochèque de la région. Alors cet éco-chèque, il est destiné, comme l'ANA, aux travaux de rénovation énergétique, puisque la région a souhaité effectivement favoriser le développement de la performance énergétique des logements, réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre cette précarité énergétique en stimulant la rénovation des logements et en stimulant également l'activité de rénovation via l'emploi. Donc les bénéficiaires de l'éco-chèque région peuvent être soit propriétaires occupants, soit propriétaires bailleurs, on en parlera tout à l'heure. Donc pour les propriétaires occupants qui résident en Occitanie au niveau de leur résidence principale, un éco-chèque peut être obtenu à la condition de réaliser des travaux qui vont permettre 25% de gains énergétiques, comme pour l'ANA. On utilise le même diagnostic, le même système. Donc pour avoir droit à l'éco-chèque région, il y a des conditions de ressources à respecter pour les propriétaires occupants qui, là, varient en fonction non pas du nombre d'occupants du logement, mais en fonction du nombre de parts fiscales affichées sur l'avis d'imposition. Donc, vous voyez, les plafonds vont de 18 500 à 46 500 euros à comparer avec le revenu fiscal de référence, c'est-à-dire votre revenu après abattement du dernier avis d'imposition. Vous devez, pour bénéficier de l'éco-chèque région, passer par des artisans qui auront le label RGE, c'est-à-dire qui seront reconnus garants de l'environnement. Au niveau de l'ANA, dans le cadre du programme Habiter Mieux Sérénité, ce label n'est pas pour l'instant obligatoire. Par contre, au niveau d'Habiter Mieux Agilité, là où il n'y a pas besoin d'avoir les 25% de gains, on doit là aussi passer par des professionnels habilités et labellisés RGE. Le professionnel doit également être à même de pouvoir récupérer l'éco-chèque et l'encaisser, puisque c'est le professionnel qui va encaisser l'éco-chèque de 1 500 euros au niveau de la région, qui le déduira directement sur la facture. Donc, les travaux doivent, comme je vous le disais, permettre les 25% d'économie d'énergie. Ils ne doivent pas concerner que des travaux d'isolation de comble perdu, sinon l'éco-chèque n'est pas éligible, ni un bouquet de travaux composé soit de l'isolation des combles perdus, soit un système de VMC. C'est-à-dire on va faire une exclusion. Si on fait l'isolation des combles uniquement, on n'a pas droit à l'éco-chèque. Si on fait isolation des combles et VMC, on n'a pas droit à l'éco-chèque non plus. Donc il faut rentrer dans ces travaux éligibles-là. Et sont également exclus les logements soumis à la réglementation thermique pour 2012. Donc cet éco-chèque, il représente 1 500 euros qui va venir sous forme d'abattement forfaitaire sur la facture du professionnel, puisque c'est le professionnel qui le déduira directement. Pour les propriétaires bailleurs, on en parlera tout à l'heure, la déduction est de 1 000 euros et il n'y a pas de condition de ressources, mais une condition de conventionnement du logement. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que les subventions de l'ANA, hormis dans le cadre d'une OPH, d'une opération programmée d'amélioration d'habitat, ne se cumulait pas avec le prêt à taux zéro. Donc le prêt à taux zéro est un dispositif qui permet d'obtenir un prêt à 0% dans le cadre de l'acquisition d'un logement à titre de résidence principale pour des propriétaires pour des futurs propriétaires qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale durant les deux dernières années. Il y a une condition de primo-accession pour le prêt à taux zéro. Il y a également des conditions de ressources. Et le prêt à taux zéro s'applique pour l'acquisition dans le neuf, ce qui n'est pas l'objet de notre table ronde aujourd'hui, mais aussi dans l'acquisition d'un logement ancien avec des travaux, qui assimile le local à un logement neuf, ou l'amélioration d'un logement dont les travaux vont représenter au moins 25% du coût total de l'opération. Donc là aussi, les travaux ne doivent pas commencer avant l'émission de l'offre de prêt, et il n'est pas obligatoire d'avoir recours à des entreprises. Le prêt à taux zéro peut financer des travaux qu'on fait exécuter soi-même, ou pas forcément des entreprises labellisées RGE, comme pour la région ou pour le dispositif Habiter Mieux Agilité. Donc comme je vous disais, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. Donc pour ce qui est du montage du dossier, le prêt à taux zéro s'obtient auprès des établissements prêteurs, donc au niveau de la banque, et donc peut financer ce type d'acquisition amélioration et peut se cumuler avec des subventions de l'ANA à la condition qu'on soit sur le territoire d'une OPA, ce qui est le cas sur votre secteur. Et donc là, vous avez les plafonds de ressources applicables. Alors, hormis le prêt à taux zéro, on peut avoir pour les travaux de rénovation un éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro est un prêt qui est destiné à l'amélioration des logements qui datent ou qui ont été achevés du moins avant le 1er janvier 1990. Donc, pardon. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait une question. Donc, sur ce type d'éco-prêt, Il concerne soit les propriétaires bailleurs, soit les propriétaires occupants, donc pour un logement toujours occupé à titre de résidence principale, au moins 8 mois dans l'année. Et il va permettre la réalisation de ce qu'on appelle un bouquet de travaux. En fait, il y a 3 types de travaux financés par l'éco-prêt à taux zéro. Les travaux de rénovation énergétique qui constituent le bouquet de travaux, c'est-à-dire au moins 2 travaux parmi 6 du bouquet. Donc les 6 travaux éligibles, vous les avez là. Isolation de la toiture, isolation des murs donnant sur l'extérieur, fenêtres. Donc ça, pour l'isolation des murs et les fenêtres, il faut changer, rénover au moins la moitié des équipements. Le système de chauffage, les énergies renouvelables utilisées pour la production d'eau chaude ou pour le chauffage. Donc faire un bouquet de travaux, ça veut dire faire au moins 2 de ces 6 travaux, voire 3, ce qui influera ensuite sur le montant du prêt. Il n'y a pas de condition de ressources pour avoir droit à l'éco-prêt à taux zéro, et cet éco-prêt à taux zéro peut se cumuler avec les aides de l'ANA, avec les aides de la région et aussi avec le crédit d'impôt. Il existe des formulaires types à remplir, qui sont remplis donc avec votre établissement prêteur, et vous devez passer par des artisans qui ont le label RGE. Donc le principe, c'est un éco-prêt par logement pour le propriétaire occupant. Pour le propriétaire bailleur, c'est un éco-prêt par logement, mais sur plusieurs logements, puisque le bailleur peut mettre en location plusieurs logements, et il peut avoir droit à l'éco-prêt sur les différents logements, mais qu'une seule fois par logement. Donc le montant de l'éco-prêt, il varie en fonction sur le bouquet de travaux du nombre de travaux. Si on fait 2 des 6 travaux, c'est 20 000 euros de prêt à 0% qui sont remboursables sur 10 ans. Si on fait 3 des 6 travaux, 30 000 euros de prêt à 0% remboursables sur 15 ans. On a une autre catégorie, c'est les travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale qui, eux, s'élèvent à 30 000 euros. Là, c'est quand on fait des très gros travaux de rénovation énergétique sur des logements très anciens. Il existe également des prêts au niveau des organismes sociaux. Donc il existe des prêts pour les allocataires CAF ou MSA. Donc ce sont des prêts qui sont soumis à des conditions de bénéficier d'une prestation familiale qui permettent la réalisation de travaux éligibles aux aides de l'ANA, donc tout ce qui va être rénovation énergétique, mais aussi sécurité et salubrité de l'habitat. Les travaux peuvent être faits soit avec un artisan, soit par le biais du propriétaire directement, et ils doivent permettre du moins l'amélioration du logement. Donc ces prêts varient en termes de montant. Pour ce qui est CAF et MSA, on a un prêt national qui est de 1067 euros à 0% remboursable sur 36 mois. Et dans le département du Tarn, la CAF propose un prêt à 2300 euros à 1% remboursable sur 48 mois. Et il existe également pour les salariés d'entreprises de secteur privé de 10 salariés et plus, un prêt d'Action Logement, qui est l'ancien 1% logement, 1% patronal, qui permet donc de faire des travaux de rénovation dans un logement à hauteur de 5000 euros, au taux de 1%, remboursable au maximum sur 10 ans. Il faut être donc propriétaire occupant au bailleur, ou bailleur, pardon, et que le logement constitue là aussi la résidence principale de l'occupant. Donc j'évoquais avec vous tout à l'heure les certificats d'économie d'énergie, qui sont ces fameux avantages clients proposés aux fournisseurs d'énergie, aux clients qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Donc on a l'obligation de réalisation d'économie d'énergie qui est imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie, sachant que ces certificats sont attribués directement par les services du ministère aux acteurs éligibles qui réalisent des économies. Donc c'est tout ce qu'on entend en termes de dispositifs d'isolation à 1 euro, de primes à la casse, d'équipements de chauffage, des prêts à taux réduit, des primes, ça peut être aussi des bons d'achat, des chèques cadeaux ou des prêts bonifiés. C'est variable d'un fournisseur à l'autre, mais par contre, ça ne se cumule pas avec les subventions de l'ANA si on prend les 25% de gains énergétiques, si on a le dispositif Habiter Mieux Sérénité. Par contre, avec le dispositif Habiter Mieux Agilité, on pourra cumuler les certificats d'économie d'énergie.
Radio Albigès vous a proposé l'émission Conférence avec aujourd'hui une table ronde enregistrée au salon Éco-Énergie de Carmaux en octobre 2018. Table ronde de présentation des travaux de rénovation par Marjorie Medjeber, juriste à l'ADIL du Tarn, l'agence départementale d'information logement. N'hésitez pas à visiter notre site internet le www.radioalbiges.com à l'onglet « Partenaires » pour retrouver les autres enregistrements réalisés à l'occasion du salon Éco-Énergie de Carmaux en octobre 2018.